mon Dieu, je veux te prier maintenant, afin que tu disposes nos cœurs à entendre, à recevoir et aussi à agir selon ta parole. Merci Seigneur de conduire toutes choses, Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est un privilège pour moi d'être là ce matin, de pouvoir vous apporter de la part de Dieu le message que Dieu a déposé sur mon cœur. Je voudrais lire avec vous ce psaume que vous connaissez très certainement. En tout cas, tous ceux qui connaissent, qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu, connaissent ce psaume. Parce que franchement, il est magnifique. Et je voudrais avec vous lire ce psaume 103. Psaume 103 de David. Voici ce que nous lisons dans ce texte. Alors on va lire, je vous propose de lire l'ensemble du chapitre 103, même si bien sûr nous ne retiendrons pour ce matin que quelques morceaux, que quelques textes. Voici ce que nous lisons. « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. L'Éternel fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère. Amen. Heureusement pour moi. Il est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, nos fautes, nos péchés. Car comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous ne sommes que poussière, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Vous entendez ? Malgré ce qui peut se passer autour de nous, malgré ce qui peut se passer dans le monde entier, l'Éternel règne. L'Éternel est aux commandes. Alléluia ! Il a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme. Bénis l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Gloire à Dieu pour ce texte magnifique. C'est un hymne à la louange et à la gloire de notre Dieu. Nous voyons ici dans ce texte le roi David qui exhorte, qui parle à son âme, qui parle à lui-même en quelque sorte. Et qui dit, eh bien, mon âme, alors je vais peut-être paraphraser un peu, mais peut-être qu'il va dire, écoute mon âme, arrête de regarder à toi-même, arrête de regarder à ce qui t'entoure. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis-le, bénis l'Éternel. Pourtant, nous qui connaissons l'histoire de David, nous qui connaissons ce par quoi il est passé, eh bien, nous savons que la vie de David a tout et n'a absolument pas été facile. Il a connu toutes sortes de luttes, toutes sortes de combats, toutes sortes de choses, plus ou moins difficiles, et surtout plus d'ailleurs. Il n'a pas toujours été roi pendant de longues années. On se rappelle qu'il a été obligé de se cacher. Il était condamné à errer ici, à errer là, à se cacher dans telle caverne, à aller dans telle grotte. Tout ça parce que le roi de l'époque en place, eh bien, voulait le supprimer parce qu'il avait bien compris que c'était David qui allait un jour prendre sa succession. Il voulait en quelque sorte supprimer son concurrent. Et puis il semblerait, au regard des Écritures, que même son enfance a été compliquée. David a été mis rapidement de côté, négligé par ses parents, par son père, jugé par ses frères. Mais qui es-tu, toi ? Et je ne rentre pas dans les détails, bien sûr. Plus tard encore, étant enfin devenu roi, eh bien, on voit le propre fils de David qui se tourne, qui se retourne contre son père et qui fomente contre lui un coup d'État et le force ainsi encore une fois à s'enfuir et à se cacher à nouveau. Bref, David n'a vraiment pas eu une vie facile. Il a été plein de rebondissements en tout genre, malgré qu'il soit, d'après l'Écriture, d'après Dieu lui-même, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu aimait David. David avait un cœur qui se tournait jour après jour vers son Dieu. Mais nous voyons aussi que malgré toutes ces épreuves, malgré toute l'adversité qu'il a subie pendant toutes ces années, David a toujours su se confier et se réfugier en son Dieu. Et puis, le résultat, c'est que Dieu l'a élevé au temps voulu. Un jour, il est devenu roi. Un jour, il a régné sur ce pays d'Israël. Les épreuves ne l'ont pas détruit. Les oppositions qu'il a rencontrées de toutes sortes ne l'ont pas plongé dans la dépression, comme beaucoup aujourd'hui. Mais bien au contraire, il a lutté avec la puissance de son Dieu en lui et il a été vainqueur. Alléluia. On peut donc, frères et sœurs, être chrétiens. On peut donc être né de nouveau, être rempli vraiment du Saint-Esprit. Et pourtant, rencontrer, vivre une multitude de difficultés et de vents contraires. Et sans aucun doute, pour plusieurs ce matin qui nous suivez, vous êtes, en partie en tout cas, dans ce genre de situation. Vous subissez aujourd'hui encore toutes sortes d'attaques en règle de l'ennemi. Vous subissez peut-être maladie sur maladie, difficulté sur difficulté. Et il y a de l'incompréhension. Et il y a des « pourquoi, Seigneur ?» Et il y a des « mais jusqu'à quand, Seigneur ?» Mais, vous avez remarqué dans le texte que nous avons lu dans le chapitre 103, il y a plusieurs « mais » qui arrivent. Voilà la situation, voilà ce qui est en train de se passer, mais j'aime ce « mais ». Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu est avec nous, de la même manière qu'il était avec David. Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Sois-en convaincu. Comme Dieu était avec son serviteur David, je crois et je peux dire en toute vérité, je peux dire que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Et là, ça fait vraiment toute la différence. Ça fait toute la différence. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Tu entends cette parole ? On le chante d'ailleurs régulièrement dans un chant. « Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi ?» Et je veux déclarer ce matin que même si le monde entier était contre ta personne, contre toi, même si l'ennemi lançait toutes les difficultés, toutes les maladies possibles, inimaginables, ton Dieu, je l'ai souligné tout à l'heure, ton Dieu reste aux commandes. Ton Dieu règne, ton Dieu pilote, il conduit, il dirige le monde, mais pas que le monde. Il dirige aussi ta vie, il dirige aussi les circonstances de ta vie. Ton Dieu peut te rendre fort, il peut te rendre capable non seulement de résister à tous ces vents contraires que tu subis depuis quelque temps, mais ton Seigneur veut aller bien plus loin. Il veut te rendre plus que vainqueur, nous dit les Écritures. Mais pour cela, eh bien, je t'invite à faire comme ce roi d'Israël, comme David. Fais comme lui. Réfugie-toi en Dieu. Réfugie-toi en lui. Et place ta confiance, ta foi dans ce Dieu puissant et vrai. Alors, c'est sûr que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Nous ne vivons pas dans un cocon à l'abri de toutes les tempêtes, à l'abri des virus, etc., etc. Mais je dis très clairement que si nous savons nous cacher en lui, si nous savons nous confier en lui et en lui seul, eh bien, nous n'avons rien à craindre. Peut-être que quelqu'un tremble ce matin. Peut-être que dans ta maison, tu crains, tu as peur. Tu as peur de toutes sortes de choses, du chômage qui... Ah, on est en train de dire peut-être dans ton entreprise que, eh bien, on va licencier. Tu te dis, mais est-ce que je vais pas être dans le lot ? Peut-être que tu as peur, bien, de la Covid. Peut-être que tu as peur de bien d'autres choses. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en Dieu. Nous avons en Jésus, nous avons en l'Éternel un abri sûr et un refuge. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien, tu n'as rien à redouter. David a été par la puissance de Dieu vainqueur de tous ses ennemis. Il y a un psaume, plusieurs psaumes qui le proclament, qui le disent. Et je peux dire ce matin avec vérité qu'il en sera de même pour toi, mon frère, ma sœur. Entends-le ce matin. Par la foi en Jésus-Christ et par la foi seule, tu es déjà vainqueur. Il n'y a que la foi qui puisse dire ça. Alors que tu es malade, alors peut-être que tu souffres, alors peut-être que tu es là dans ton lit, est-ce que tu es capable de dire « Je suis vainqueur » ? J'ai pas dit « Je serai un jour vainqueur, mais là, maintenant, je suis vainqueur. » Et tu peux l'être par la puissance de Christ. Alors, je voudrais maintenant revenir à notre texte que nous avons lu il y a quelques instants. Il y a bien sûr énormément de points que nous pourrions développer, mais je me contenterai juste de quelques-uns pour ne pas prendre trop de temps. Tout d'abord, je crois... Et la Bible le déclare qu'il y a un temps pour tout. Comme il y a un temps pour pleurer, nous dit la parole, il y a aussi un temps pour se réjouir. Alors, de vous à moi, il y a un temps que je préfère à l'autre. Je vous laisse deviner. Mais il y a un temps pour tout. Il y a aussi un temps pour travailler. Et puis, il y a un temps pour se reposer. J'aime bien les vacances, j'aime bien les week-ends, mais le lundi, il faut bien retourner au travail. C'est nécessaire. Il y a un temps pour tout. Et il y a aussi un temps pour crier à Dieu. Il y a un temps pour prier, pour supplier Dieu d'intervenir dans telle ou telle situation. Et il y a aussi un temps pour le louer, un temps pour l'adorer, un temps pour l'exalter. Les Écritures nous encouragent à le prier. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, nous lisons ceci, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Et puis dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » À mon humble avis, ce simple texte parle à quelqu'un. Ne vous inquiétez de rien. Ça revient à ce que je disais il y a quelques instants. Dieu gère. Dieu règne. Dieu sait. Dieu dirige. Il maîtrise. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Nous pouvons donc très librement et très simplement faire connaître à celui qui peut tout, nous pouvons lui faire connaître nos besoins, nous faire connaître nos chagrins, nos luttes, nos combats, parfois nos incompréhensions aussi. Mais s'il y a un temps pour crier à Dieu, s'il y a un temps pour répandre nos cœurs devant lui, nous ne devons pas oublier qu'il y a aussi un temps pour le louer, pour l'adorer, pour l'aimer de tout notre cœur et pour lui rendre des actions de grâce. Et c'est sur cet aspect que je voudrais m'arrêter quelques instants maintenant. Car s'il est bon pour chacun de nous, nous l'avons lu, nous l'avons cité ces textes, s'il est bon pour chacun de nous de prier, de nous épancher sur lui, il est également bon, et je dirais même très bon, excellent, de l'adorer, de le louer. Ce psaume 103, entre autres, parce qu'il y a de nombreux textes qui nous encouragent dans ce sens, nous pousse à aller dans cette direction, dans l'adoration, dans la louange. Et d'ailleurs, nous l'avons fait ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de chants parler de louange, d'adoration, de célébration, alléluia. Notre Dieu est grand et il est digne d'être adoré. Mais j'ai noté dans mes notes que il est bon d'adorer notre Dieu sans toutefois attendre que tout aille bien, sans attendre que je sois guéri de mes maux, sans attendre que j'ai trouvé du travail, que j'ai mes papiers, que j'ai ceci, que j'ai obtenu cela. Même dans l'épreuve, je dirais même surtout au sein de l'épreuve, au cœur même de la tempête, nous devons savoir adorer, glorifier celui qui est. Notre Dieu reste digne de recevoir l'adoration de ses rachetés. Et d'ailleurs, le texte que nous avons cité il y a quelques instants dans Philippiens le confirme. Je vous le rappelle, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, avec de l'adoration, avec de la louange, avec de la reconnaissance. Il est capital, mon frère, ma sœur, de joindre l'adoration et la louange à la prière. Alors peut-être que plusieurs diront oui, mais pour moi c'est trop dur. C'est trop dur de louer Dieu quand on souffre, quand je souffre, quand on est dans la vallée des larmes. J'y arrive pas. Si vous saviez ce par quoi je passe en ce moment, et bien sûr, je comprends. Je comprends la difficulté. Je comprends bien volontiers que parfois notre esprit, nos pensées, notre cœur même, sont tellement comme monopolisés par les circonstances, par les événements que nous vivons, que finalement on se retrouve là un peu comme sans force, comme vidé de toutes nos forces. L'envie, le désir de louer Dieu n'existe plus à ce moment-là. Et puis quand on entend quelqu'un dire « Eh bien, il faut que tu adores Dieu. » Bah, écoute, j'ai d'autres soucis. J'ai d'autres soucis à régler en ce moment. Eh bien, justement, je crois que c'est souvent le secret de la victoire. C'est sans doute le meilleur moment pour toi d'entrer dans la présence de Dieu, d'aller te cacher en lui, d'aller te réfugier à ses pieds. C'est sans doute le meilleur moment de décider d'arrêter de regarder à ce qui t'entoure, de regarder à toutes ces angoisses, à ces maladies, bref, je passe la liste, et enfin de regarder à celui qui t'aime, de regarder à celui qui peut, à regarder à celui qui est capable. N'est-il pas écrit ce texte que je trouve particulièrement puissant dans 2 Samuel chapitre 22 verset 4 et repris dans les psaumes ? Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Je le redis, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. La délivrance arrive après avoir crié, loué soit l'Éternel. Alors, évidemment, ce n'est pas une formule magique. C'est pas parce que dans votre chambre, vous allez dire « Loué soit l'Éternel » que vous allez être délivré. C'est vraiment de tout votre cœur que vous devez exalter, louer, glorifier Dieu. Je crois que c'est le moment pour vous, en tout cas pour plusieurs, ce matin, de vraiment lever les regards et de regarder à Jésus. Je voudrais t'inviter ce matin à cesser de regarder aux événements, aux circonstances défavorables, difficiles, pénibles que tu vis. Je ne vais pas dresser une liste parce qu'elle ne serait pas exhaustive, j'en oublierai forcément. Mais ne regarde plus à tout cela. Cesse de repasser ces choses négatives, mauvaises, ces souffrances dans ton cœur, dans ton âme, à en parler à Pierre, Paul, Jacques et Philippe et David. Mais loue ton Dieu, adore-le pour qui il est, il en est tellement digne. Au lieu de fixer les regards sur les circonstances, fixe les regards sur ton Seigneur, sur ton Sauveur. Ton Dieu n'est-il pas au-dessus de toutes ces choses ? Ton Dieu n'est-il pas plus grand, plus puissant, plus fort que n'importe quelle maladie ? Ton Dieu n'est-il pas plus grand que les circonstances, que les événements de ta vie ? Ton Dieu serait-il incapable d'intervenir en ta faveur ? Absolument pas. Évidemment, Dieu est capable. Dieu règne, je le dis, je le redis, dans les cieux, mais pas que dans les cieux. Il règne sur la terre et rien ne lui échappe, que son Saint-Nom soit béni. Alors évidemment, quand nous regardons à notre situation, à ce qui nous entoure, c'est le découragement et la crainte qui te saisissent. Et c'est certainement ce que tu vis ce matin. Mais quand nous décidons, au contraire, de lever nos regards et de regarder à Jésus, alors la perception des choses change. Je dirais que c'est un miracle qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de l'homme. Mais lorsque tu regardes à Christ, les choses changent. Et même si parfois les circonstances ne se trouvent pas changées aussi rapidement que l'on voudrait, la perception change. Ton état d'esprit change, et Michaël le disait tout à l'heure. Même dans l'épreuve, on peut être joyeux. Même dans l'épreuve, on peut être heureux. Mais comment ça se fait ça ? C'est tout simplement impossible, humainement parlant. C'est juste le miracle que Dieu veut faire dans ta vie. Ce psaume nous invite à nous parler à nous-mêmes, à parler à notre âme. Mon âme, cesse de regarder aux événements. Mon âme cesse de repasser en boucle le mauvais film, le film noir. Mais mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il y a là comme un ordre que David donne à son âme. Alors certes, les événements extérieurs ne sont peut-être pas propices à l'adoration. Certes, si je regarde à ce qui m'entoure, je vais être découragé. Mais c'est justement pour cela que ce matin, la parole de Dieu veut t'encourager, veut t'emmener plus loin et à regarder au Seigneur. Souvenez-vous, je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis. Et sans doute qu'il est temps pour toi, mon frère, ma sœur, toi, mon ami, qui nous suivez sur Internet, il est temps pour toi de décider, de prendre position maintenant, ce matin, et bien de bénir ton Dieu, de le bénir pour ce qu'il est, de le bénir pour ce qu'il a fait dans le passé. D'ailleurs, as-tu pris le temps de repasser sur ton cœur tout ce que Dieu a fait pour toi? Parfois, on ne regarde que la situation présente. Et puis, voilà, comme si c'était la fin de tout. Mais ton Dieu ne t'a-t-il pas déjà béni? Bien sûr que oui. Est-ce que ton Dieu n'aurait déjà-t-il pas agi en toi? Est-ce qu'il ne t'a pas déjà guéri? Combien de fois t'a-t-il gardé, protégé? Etc., etc. Compte les bienfaits de Dieu. Et tu sauras combien ils sont nombreux. Tu le verras en tout cas. Et parfois, autant il n'est pas bon d'aller rechercher les vieilles choses du passé, surtout ce qui est négatif. Mais autant il est bon de repasser de temps en temps les bontés de l'Éternel à ton égard, tout ce que Dieu a déjà fait. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour toi il y a quelques années, tu t'en souviens? Il est encore capable de le refaire. Je dirais puissance 10 encore aujourd'hui pour toi. Aie confiance dans son amour. J'ai noté, il ne te laissera pas tomber, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas couler. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur, adore ton Dieu. Et puis enfin, pour terminer, nous trouvons dans ce texte quelques pistes, quelques sujets de louange, d'adoration. Et là, je vais aller très très vite maintenant. Par exemple, au verset 3, il est écrit ceci, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. En Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, mon ami, parce qu'il a pris sur lui nos fautes, nos péchés, Michaël le rappelait encore il y a quelques instants, parce que Christ a accepté d'aller sur la croix et c'est lui qui a donné sa propre vie pour chacun de nous. À cause de cela, ou devrais-je dire grâce à ce sacrifice et à sa mort sur la croix, tous nos péchés, toutes nos fautes, quelles qu'elles soient, ont été pardonnées. Elles ont été pardonnées tout et autant que tu sois venu à ses pieds. Si mon frère, ma sœur, un jour, tu as dit à Jésus, « Oh, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, pardonne mon péché », eh bien, il l'a fait. Il l'a fait et ta vie peut de nouveau, est partie de nous, enfin, est comme partie, ta vie a été comme un renouveau, pardonnez-moi. Il est bien écrit dans ce texte, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Parfois, je rencontre des personnes qui sont chrétiens, nées réellement de nouveau, et puis qui vont rechercher les vieux péchés d'avant. Oui, mais avant, j'ai fait ci. Ah, si vous saviez, frère, j'ai fait ça, comme c'était moche. Ouais. N'es-tu pas pardonné? Est-ce que tu n'as pas demandé pardon au Seigneur pour tout cela? La Bible dit que quand Dieu pardonne, il ne s'en souvient plus. C'est terminé. On passe à autre chose. On tourne la page et la page est blanche. Elle est vierge. Tu peux écrire avec Jésus une vie nouvelle. Tout peut recommencer, comme le dit la parole de Dieu. Et je vous invite, si peut-être quelqu'un ce matin n'a pas fait cette expérience et est peut-être encore chargé par ce péché, eh bien, je vous invite tout simplement, là où vous êtes chez vous, peut-être dans votre canapé, sur une chaise, sur un fauteuil, à venir au Seigneur et à dire, Seigneur Jésus, prends ma vie, je te la donne et pardonne-moi. Et là, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire, là encore. Vous allez voir combien un poids pesant sur votre cœur va être ôté. Et le Seigneur, eh bien, va vivre en vous. Alléluia. Et là, vous pourrez dire, ah, mais je découvre des choses merveilleuses. Merci, Seigneur. Je continue, verset 3, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Dans les évangiles, Jésus n'a jamais refusé la guérison d'un malade. Jamais. Mais il a toujours accordé grâce. Il a toujours accordé pardon, comme nous l'avons dit, et miséricorde à tous ceux qui venaient à lui. Et je l'ai dit tout à l'heure, Jésus ne change pas. Il n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le refera aujourd'hui. Il continuera de le faire demain. Et là encore, je veux juste souligner que c'est lui qui guérit toutes tes maladies, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intérieures, que ce soit ton âme qui soit meurtrie, blessée au plus profond, que ce soit ton cœur parce que tu as vécu des choses dures, difficiles, de la part peut-être des hommes. Le Seigneur est capable de guérir. Et quand il fait quelque chose, il le fait d'une manière parfaite et totale. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Et même si tu es tombé très bas, même si tu te sens peut-être comme dans une fosse, impossible à remonter, impossible à t'en sortir par toi-même, eh bien, je veux te dire ce matin que si tu cries à Jésus, je déclare qu'il te délivrera. Je déclare qu'il te sortira de cette fosse dans laquelle tu es aujourd'hui. Ce texte signifie aussi que si tu acceptais Jésus dans ta vie, il t'a délivré de la mort éternelle. Et pour nous, chrétiens, c'est aussi important de se souvenir que notre but, c'est de vivre avec notre Seigneur pour l'éternité. Et par le sacrifice de Jésus, c'est là notre future maison. Notre future propriété, elle est là-haut. Alléluia, auprès du Père. Béni soit le nom du Seigneur. Je lis simplement les versets qui suivent. C'est lui qui couronne de bonté c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Je voudrais juste terminer avec ce verset 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et je crois, frères et sœurs, qu'avec ces quelques textes, ces quelques versets, nous avons de quoi bénir. Nous avons de quoi adorer notre Dieu, notre Seigneur. Aujourd'hui, peut-être que jusqu'à présent, tu regardais sans cesse à ce qui t'entourait, à la tempête. Aujourd'hui, la parole de Dieu t'invite à regarder à Christ, à lever le regard vers lui et à l'adorer. Et tu verras combien les choses vont changer dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Et tu seras capable de te réjouir tout à nouveau en lui. Amen. Béni soit le Seigneur Jésus. Alors que le Seigneur soit béni. Et que le Seigneur vous bénisse maintenant et aussi vous accorde sa grâce. Je vous invite à prier quelques instants. Pendant ce temps-là, les musiciens vont pouvoir nous rejoindre, revenir sur le devant. Voilà, nous allons prier quelques instants et demander, eh bien, au Seigneur de bénir encore le résultat de sa parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole écrite. Merci pour la Bible. Merci pour ce qui est écrit dans ce livre de vie. Merci Seigneur parce que nous pouvons y découvrir là toutes sortes de choses. Oh Seigneur, merci notamment pour cette parole de ce matin qui veut combler un cœur, qui veut détourner peut-être les regards de quelques-uns de leurs problèmes, de leurs fardeaux, de leurs soucis, afin qu'ils puissent lever les regards vers toi. Tu es le grand Dieu vainqueur, tu es le grand Dieu tout-puissant. Je crois Seigneur que dans la louange, dans l'adoration, il y a une force. Il y a une puissance toute particulière. Je crois, Seigneur, que lorsque j'adore mon Dieu, eh bien, les soucis de la vie disparaissent, s'éloignent. Oh, peut-être que tout ne disparaît pas en un instant, en un claquement de doigts. Seigneur, c'est ton affaire, c'est toi qui vas diriger tout cela. Et c'est toi qui vas t'occuper de ma maladie. C'est toi qui vas t'occuper de mon problème, de mon fardeau, de tous ces tracas. Moi, Seigneur, je veux t'adorer. Moi, Seigneur, je veux te louer. Je veux le faire avec mes frères. Je veux le faire avec mes sœurs. Je veux le faire dans la communion fraternelle, tous ensemble. Nous voulons, Seigneur, comme un peuple uni, adorer notre Dieu, celui qui est juste, véritable, rempli de miséricorde et d'amour. Amour, je t'adore mon Seigneur et mon Dieu. Oh, d'une manière bien imparfaite, c'est vrai, mais je veux le faire de tout mon cœur. Merci pour la vie de Dieu en moi. Amen. Et je te prie, Seigneur, afin que ce matin encore, tu puisses communiquer ta vie, ta grâce à beaucoup qui nous ont écoutés ce matin. Dans le nom de Jésus, sois glorifié, Père. Amen. Amen.